En attendant, je passe la parole à Kateb Saïd pour qu'il nous donne ses impressions, son sentiment et son analyse. Merci Kateb.
Merci, merci à tous. Je ne sais pas, vous m'entendez au fond ?
Sans micro ?
Ah bon ? C'est des problèmes, on a tous des problèmes d'oreilles. Mais parce qu'en général, je n'ai pas de difficulté à me faire entendre. Et les micros me gênent plus que d'autres choses. Mais disons qu'on va s'y faire. Hein. Ah bon ?
En plus de...
Mais si je peux prendre le micro parce que des gens en ont besoin, ben je reste assis. Alors bon, c'est avec beaucoup d'émotion hein, que je me retrouve ici. Je me retrouve ici dans un cadre initié par des amis qui sont là depuis longtemps, qui ont sauvé leur peau. Juste après le premier printemps arabe. Parce que tout ce qui est dit aujourd'hui sur les printemps oublie que la ligne de fracture entre la modernité et l'archaïsme, elle s'est opérée d'abord en Algérie. C'est en 1988 que les masses ont commencé à revendiquer le changement. En fait, le changement, il y en a eu un. Il y a eu le multipartisme, il y a eu, bien entendu, le système a toujours été là, et le système, très rapidement, a autorisé des partis anticonstitutionnels à faire de la politique. Il a organisé des élections, sachant très bien quels allaient être les résultats, et on est arrivé au drame que tout le monde connaît. La vie de nos camarades aujourd'hui, qui sont ici, cet exil forcé, je le partage avec beaucoup d'émotion, et je partage aussi avec beaucoup d'émotion la présence d'autres Algériens de cœur, qui aussi ont été amenés peut-être à un exil qu'ils ne voulaient pas. Hein. Donc à toutes les victimes, je vous demande d'avoir une pensée, qu'on soit tous et qu'on l'ait ensemble, à toutes les victimes de décolonialisme d'abord. Parce que nous avons tous été, d'un côté ou de l'autre, victimes du décolonialisme. À toutes les victimes des agressions impérialistes, à toutes les victimes de ces guerres qui sont souvent provoquées pour des intérêts tout à fait mesquins et étroits. Sur le plan économique, tout le monde le sait. À toutes les victimes aussi de cette alternative qui est venue proposer l'islam politique à la chute du socialisme, dit réel à l'époque, à la chute du mur de Berlin. C'est exactement à ce moment-là où beaucoup ont parlé de la révolution khomeiniste, où vous avez libéré Khomeini pour le renvoyer en Iran, et où il a fondé la première dite république islamiste. Il a mis l'islamisme au pouvoir. Et vous savez très bien que c'est quelques mois après qu'a commencé la liquidation physique de tout ce qui pouvait avoir, tout ce qui pouvait y avoir comme force progressiste. Ce sont par centaines, par milliers, que des Iraniens ont été égorgés, pendus, sous le pouvoir de l'islamisme, donc, qui a commencé à se présenter comme alternative. Et bien entendu, le mot d'ordre, on s'en souvient tous, parce qu'il faut, il y a des moments où la mémoire, et je pense que la mémoire est un outil indispensable, c'est un instrument. C'est un instrument de la construction du présent et de l'avenir. Il est nullement question de faire l'impasse sur la mémoire. Et donc cette mémoire, ça a été les partis islamistes qui ont émergé avec l'encouragement, vous vous souvenez, de la politique de Chedli, avant même leur constitutionnalisation illégal. Ça a été un fameux imam El-Ghazali qui occupait l'écran toutes les semaines et qui était importé d'Égypte pour propager son idéologie et proposer sa politique. Ça a été la libéralisation des discours des mosquées. Ça a été en même temps que l'ultra-libéralisation économique, en concordance avec le thatchérisme et le réganisme à ce moment-là. Et ça a été la répression antidémocratique, en particulier de toutes les forces de gauche qui portaient un autre projet que celui que Chedli est venu imposer à l'Alger. Voilà comment les choses ont évolué jusqu'à l'explosion de 88, jusqu'au premier printemps. Donc, hommage à toutes ces victimes et hommage à toutes les victimes qui ont suivi. Toutes celles qui ont perdu la vie, toutes celles qui ont perdu leur racine, qui se sont trouvées déracinées. Donc, hommage à tout cela. Le mouvement d'aujourd'hui, le mouvement dans lequel nous sommes depuis le 22 février, il a explosé à une conjoncture tout à fait particulière. C'est-à-dire que notre ami Tahar était en train de décrire comment les gens n'ont plus pu supporter tellement le mépris, l'insulte à leur intelligence, à leur patriotisme, à leur existence est devenue grosse quand à la télévision on offrait des chevaux aux cadres, quand on a voulu aller au cinquième mandat, à ce fameux cinquième mandat. Le mot d'ordre initial de tout ce mouvement, ça a été non au cinquième mandat. Donc c'est contre cette agression encore sur l'intelligence des gens, sur leur... C'était comme si il n'y avait plus aucune... Il n'y a plus rien en Algérie qui aurait pu mener à bien les choses. On s'en remettait à un président mort-vivant. Et ça a créé les conditions, disons, psychologiques, psychosocial de cet embrasement. Il ne faut pas oublier une chose au plan politique. C'est qu'en général, le système a toujours trouvé les moyens de gérer son consensus interne. Il a toujours trouvé les moyens de gérer à l'interne ses contradictions, parce qu'il n'en est pas dépourvu. Bien entendu, il y a des contradictions de fond, mais il y a aussi et surtout des contradictions d'intérêt. Parce que dans le système de prédation, d'appropriation, d'accaparement de la richesse, donc que vous connaissez, hein, de cette richesse de l'Algérie, que certains ont commencé à qualifier comme étant aussi sa malédiction, donc des hydrocarbures. Donc dans ce processus d'accaparement, d'appropriation, ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui gardent le pouvoir politique, ceux qui ont le pouvoir politique, ils ont les moyens d'avoir l'enrichissement économique. Et c'est durant de longues années que ce processus s'est installé, que le partage s'est fait entre les uns et les autres, en fonction de leur niveau de proximité du pouvoir, en fonction de leur poids. Donc, de clans, de clientèle, etc. Et Bouteflika était au centre de ce système. Dont il a, depuis sa venue, parce que ce système était déjà là, dont il a aggravé les traits. Il l'a aggravé, pourquoi? Parce que la manne était plus importante. Parce que depuis son arrivée, il est arrivé à un moment d'ascendance considérable des rentrées lié aux hydrocarbures. Jamais l'Algérie n'a eu autant d'argent, durant toute son histoire. La cagnotte devenant plus importante, les appétits devenant plus importants, évidemment, les intérêts étant opposés, contradictoires, les affrontements et les confrontations ont fait que pas de consensus pour la suite. Et cette absence de consensus, ces luttes intestines qui n'ont pas trouvé d'issue, qui sont d'ailleurs en cours encore, sur la question du centre de gravité, du système. Elles sont encore en cours, je vous le dirai très rapidement. On l'observe très clairement de semaine en semaine, puisque le mouvement fait ses bilans hebdomadaires. C'est observé de semaine en semaine sur la base de quoi? Des dernières déclarations que fait le représentant de l'institution militaire en tentant de répondre aux exigences du mouvement, en prétendant répondre. Et ces réponses, comme tout le monde le constate, et le mouvement est le premier à le constater, elles sont très loin. Donc elles sont dans la logique de la continuité constitutionnelle, donc application de l'article 102, maintien des instances représentatives, dites parlementaires, etc. Je parlais des assemblées croupions qui n'ont aucune représentativité et dont certains membres, bah c'est pour ça que je t'ai fait titre à la petite remarque, parce qu'il ne faut pas que l'histoire oublie aussi. Bouchéchi, il était dans cette assemblée croupion. Et ceux qui sont allés redonner la crédibilité à ces assemblées croupions, ils partagent la responsabilité. Et il faut qu'ils fassent leur autocritique.
Il a démissionné 2 ans après.
Au bout de 2 ans. Oui, mais ses compagnons qui étaient là-bas avec lui sont encore là-bas. Et c'est la raison, tu le sais, qui explique les soubresauts qu'il y a actuellement à la direction du FFS. Ils sont en train de se manger le trognon sur la question pourquoi vous êtes restés, quels sont ceux qui restent, quels sont ceux qui doivent se retirer, etc. etc. Donc, je suis dans l'exposé, hein. Je vais un peu... J'y vais... Non, c'est une petite parenthèse pour parler justement de ce système de représentation. Que s'est donné le système. Et tous ceux qui ont prétendu, je le dis, j'en assume la responsabilité, tous ceux qui ont prétendu ne pas laisser les chaises vides aller pour représenter l'alternative dite démocratique. En fait, ils étaient dans l'erreur la plus totale. Il faut qu'ils fassent leur autocritique devant le peuple. Tant qu'ils ne l'auront pas fait, le peuple ne leur fera pas confiance. Ça va être leur tour. Va arriver leur tour, oui, de semaine en semaine. Ça va arriver trop regard. Vous allez tous partir, y compris les partis qui ont cautionné. Il faut qu'ils partent. Parce que le peuple est dans cette disposition. Donc, je voulais simplement dire que, donc, au plan comme ça de l'émotion, ce mouvement est extraordinaire. Je parle de l'intérieur de ce mouvement parce que je suis aussi, j'ai peut-être la raison, mais j'ai aussi un cœur. Hein. Et donc, au plan du cœur, on a été tous, mais subjugués. On a été étonnés. Ça nous a montré aussi qu'il y a des éléments carrément de cette force populaire, de cette culture populaire, dans lesquels nous n'étions peut-être pas suffisamment. Ça, c'est au titre de l'autocritique pour quelqu'un qui a toujours fait en sorte justement de faire attention à ne pas regarder en haut, mais de regarder qu'en bas. Hein? Je vous dis, c'est cette atmosphère de joie, d'enthousiasme, de liesse que j'ai vécu seulement une fois, c'était à l'indépendance. C'était l'expression de la liesse de l'indépendance dans les rues qu'on a retrouvée cette fois en 2019. Mais en 2019, c'est une autre population. Et c'est une autre population qui n'est pas là pour exprimer la liesse de s'être débarrassé de l'occupant colonial. C'est la liesse d'avoir brisé la peur. C'est la liesse de se retrouver enfin ensemble. C'est la liesse de ne plus se regarder, comme a toujours fait en sorte le système, comme des adversaires potentiels, comme des ennemis. Comme des... Donc d'avoir récupéré une cohérence sociale, de s'être, je parlais de la libération de la peur, de s'être, de se pouvoir se projeter ensemble, et donc de bien voir que vraiment on peut vivre ensemble, et que si, et que les tensions on peut les résoudre démocratiquement avec un État qui soit réellement l'État de tous, qui ne soit pas l'État accaparé par la mafia, et un État déstructuré, détruit. Nous n'avons plus d'État. Il n'y a plus d'État. Il y a des réseaux mafieux qui se sont appropriés la fonction, les fonctions de l'État, qui ont patrimonialisé l'État. On parle de patrimonialisation de l'État. Qui l'ont patrimonialisé parce que c'est avec l'État qu'on fait des affaires. Parce que c'est lui qui distribue la manne publique, c'est lui qui, jusqu'au dernier échelon, distribue la manne publique. Et celui qui a une petite entreprise de travaux, il faut qu'il passe par la fourche caudine de la manne publique et donc de la corruption. Et la corruption, c'est généralisé. Et le peuple le voit, il le vit et il le refuse. Donc ce système qui s'est imposé à la population, dans son immoralité totale, dans son mépris, dans sa corruption quotidienne, généralisée, il a fait l'unanimité, à la limite, contre lui. Et l'unanimité, je parlais d'une nouvelle population. Entre 90 et 2019, l'évolution démographique fait que aujourd'hui, il y a 60% des Algériens qui ont moins de 30 ans. Mais ça, c'est un facteur décisif. C'est ça la surprise. C'est que tout ça, tous ceux qu'on ne compte pas, ceux qui sont là, qui sont au chômage, même quand ils sont diplômés, qui sont dans le drame de la mal-vie, qui sont dans la difficulté économique et sociale, qui pour beaucoup ne trouvent d'issue que dans la traversée clandestine de la Méditerranée, et qui meurent, qui se font bouffer par les poissons. Il y avait un véritable mot d'ordre qui circulait un moment chez les jeunes il y a 2-3 ans, que ce soit les poissons qui me mangent et pas les vers de cette terre. C'est-à-dire qu'à la limite, et ça, ce sont des phénomènes que toute la société vit dans sa chair tous les jours. Dans la totale ignorance, plus dans l'agression. Puisque le système, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il arrête ce qu'il peut arrêter dans leur folle traversée, et il les met en prison. Il les emprisonne. Donc c'est emprisonné pour fait de tentative de liberté. Voilà, tentative de liberté. Donc, cette population jeune, éduquée, pour beaucoup d'entre elles, beaucoup d'universitaires, je vous dis donc, qui sont dans l'exclusion. Parce que l'exclusion n'est pas que l'exclusion des couches populaires. L'exclusion, alors, je ne parle pas, quand les universitaires sont exclus, ne parlons pas des jeunes des quartiers, des jeunes qui sont les jeunes des stades. Et la révolution, les prémices, ce sont les stades qui l'ont montré. Et sans les jeunes des stades, il n'y aurait pas ce mouvement. Sans les exclus, sans les démunis, sans les desesperados, de véritables désespérés, qui ont finalement décidé, qui ont dit, il y en a marre, à la faveur justement de... Non, cinquième mandat, c'est fini, la goutte a débordé, toutes les autres couches ont été d'accord, et puis, le mouvement s'est déclenché. Le mouvement s'est déclenché dans ceux qui connaissent bien le pays, qui connaissent un peu le système, comment il fonctionne, il n'est pas exclu que les contradictions internes aient fait que certains clans se soient impliqués plus ou moins activement pour pouvoir garder le contrôle. Et c'est exactement ce qu'ils sont encore en train d'essayer de faire. C'est comment on fait pour remettre le fleuve dans son lit. Comment on va remettre le fleuve dans son lit? Alors on fait cette concession cette semaine, et le fleuve ne veut pas rentrer. On va faire la concession la semaine suivante, et on va continuer comme ça, en espérant que ce fleuve, d'abord, va s'épuiser, va se calmer, va rentrer dans le lit, et en espérant trouver entre eux le nouveau consensus qui leur permettrait de reproduire le système avec les traitements cosmétiques nécessaires. Alors, on est en plein dans ce processus depuis les dernières semaines. Hein. Alors, vous avez vu que de semaine en semaine, le mouvement pose ses exigences. Il a un outil, il a un instrument qui n'existait pas auparavant, ce sont les réseaux sociaux. Quand je parle de cette jeunesse, elle est toute dans les réseaux sociaux. Elle communique par là. Les mots d'ordre sont lancés en début de semaine, en fonction des évolutions, et à la fin de semaine, tout le mouvement populaire les reprend. Donc, il y a une conscience relativement élaborée, qui s'opère, et elle est en prise avec un mouvement très large qui a ses relais dans les réseaux sociaux. Et ça, ils ne l'ont pas encore en main. Ils ont bien essayé, vous vous souvenez, au début, il y a eu des moments où, y compris Internet, a été perturbé à la veille de certains vendredis. Il y a eu des tentatives de l'arrêter. Ça n'a pas suffi, et c'est parti, ça a été dépassé. Ça veut dire que ce mouvement irrésistible maintenant, il est, je pense que donc les forces politiques, qui méritent ce qualificatif, hein, parce que en fait de politique, on a eu beaucoup de boulitiques, hein, on a eu beaucoup de bouliticiens, hein, qui d'ailleurs ont accaparé aussi, ça a été un champ, le champ politique, où certaines forces se sont accaparées précisément de la fonction au point où le rejet du politique est devenu aussi une règle générale dans la société. Donc, en plus de la répression du système despotique et policier qui était en place et qui a empêché l'émergence de tout partenaire sociaux crédible, potentiellement qui représentatif, pouvant mobiliser hors des clientèles du système, parce que il y a aussi un grand mouvement associatif, mais un grand mouvement associatif clientéliste. Il y a de la clientèle du système. Rares sont les associés. Les associations qui ont pu conquérir une autonomie relative. C'est le réel. J'essaie de décrire le réel comme il est. Oui. De toute manière, c'est le débat qui va décider. Donc, le mouvement aujourd'hui, pour aller vite, pour conclure l'intervention préliminaire, il est devant un niveau de responsabilité historique considérable. Les militants de progrès, ceux qui ont une conception noble du politique et de la politique. Ils sont aussi sommés par l'histoire, par ce mouvement qui est en marche, par le peuple qui occupe la rue et qui, lui, a opéré la rupture et s'est libéré de la peur. Les élites politiques qui veulent garder le statut d'élite politique. Je parle surtout de nos amis de gauche. Elles sont sommées d'être dans le mouvement, d'être au quotidien dans les débats qu'il y a. Je vous parle d'Oran parce que je connais Oran. Bon, il y a eu des trucs qui ont été visibles sur la télé. Ça a été le forum des artistes. Ça a été le forum des artistes qui avec Adil Abendibred, un peu à sa coordination, fait des débats poussés, qui poussent loin. Et ça passe sur les réseaux sociaux. Mais à Oran, aujourd'hui, il y a donc, en plus de ce que décrivait Tahar donc comme débat dans les cafés, dans les familles, dans les hadiths, il y a de véritables... La conquête de l'espace public, parce qu'il a toujours été interdit, cette lutte, cette bataille pour ancrer le débat, non pas dans des salles. J'ai discuté avec des jeunes, ils me disent non, pas dans les salles. Tu viens discuter avec nous, on discute dehors. Et donc, on est dehors dans la transparence la plus totale pour discuter avec tous ceux qui viennent discuter. Et il y a aujourd'hui, vous avez le forum des jeunes de Afif, ils sont là. Eh bien, c'est presque donc de la télépathie. Donc, passez-les tout de suite. Non, mais je termine après la conclusion pendant que... Attends, ils sont là? S'ils sont là, tu les passes.
Alors, on va...
Ils ont la priorité. Hein.
Je vais te donner la on a commencé en retard. Donc, il faudra qu'on maîtrise un peu le timing, sinon on n'aura pas trop de place pour le débat et c'est vraiment dommage. Alors, là, tout de suite, je passe la parole à Tahar pour une petite information et ensuite on va essayer d'utiliser les réseaux sociaux et de rentrer en contact par Skype avec des jeunes étudiants qui sont en forum ouvert à Oran. Rapidement, s'il te plaît.
Mais moi, j'ai pas fini. Hein.
Oui, il y a eu. Trois mots. Pendant que nous étions. Pendant que nous sommes dans cette salle, le mouvement populaire vient d'enregistrer une nouvelle petite victoire. Petite, mais attention, très significative, c'est la démission sous la contrainte de ce même mouvement populaire et des rassemblements de syndicalistes et de travailleurs devant la centrale syndicale, la démission du secrétaire général de la centrale syndicale. Voilà un encore qui tombe.
Allez, vas-y, vas-y.
C'était en train de terminer. Je pensais que les jeunes. Vas-y. Si les jeunes sont là, la priorité est à eux. Mais sinon, je finis. Sinon, je termine.
Un peu de silence parce que vous savez que c'est pas toujours de très bonne qualité.
Je parlais de cette responsabilité qu'a le mouvement et qu'ont les militants de progrès, ceux qui sont vraiment engagés pour que leur pays avance. Dans leur lien avec ce mouvement, dans la construction, dans l'autoconstruction démocratique de forces nouvelles, qui n'ont aucune attache avec la classe politique dans laquelle ils n'ont aucune confiance, et qui sont astreints, qui vont, parce que je crois qu'ils le peuvent, si nous sommes là-dedans avec eux, ils peuvent construire un nouveau mouvement politique qui aura demain l'hégémonie.
Merci.
Alors, la
construire la démocratie, pas l'hégémonie. Beau l'hégémonie.
Les atavismes, c'est dur.